Bonjour Daniel Foucard, nous parlons de votre dernier livre, Nudisme, qui a pour personnage principal, pour héros on va dire, même si le terme est un peu galvaudé, quelqu'un qui s'appelle Simon Thomas. Première question, c'est sur Simon Thomas lui-même, est-ce que vous aviez des modèles au personnage? On ne sait pas bien qui il est, il a un peu des contours flous ce Simon Thomas. Vous aviez des modèles de personnes existantes ou c'est quelqu'un que vous avez purement inventé, qui n'existe purement dans le monde de la fiction, le monde de votre fiction, Daniel Foucard?
Alors il se trouve que pour même Simon Thomas, on pourrait presque l'appeler comme ça puisque c'est un Écossais, oui, il y a un modèle, c'est le randonneur nu, qui est un peu le modèle cardinal du livre. Et le randonneur nu, c'est un randonneur qui parcourt les îles britanniques. Simplement habillé d'un sac à dos et de pâte au gaz, et qui notamment fait du nudisme radical dans les villes ainsi que dans les campagnes, et il est pour ces raisons-là régulièrement incarcéré parce qu'il contrevient évidemment à la loi. Donc
un modèle, donc
voilà, donc c'est un personnage qui existe. En revanche, mon Simon Thomas, il va se caler que très peu sur ce Naked Rambler, puisque c'est son nom, le nom sur lequel il est connu, puisqu'il va faire bien d'autres choses, lui. C'est un personnage qui va vers le nudisme radical, mais qui, auparavant, va passer par un ensemble d'engagements qui sont à ce moment-là très spécifiques.
Ce que vous vouliez faire d'abord, avant tout, c'était un livre qui interrogeait l'engagement, qui interrogeait l'activisme, ou plutôt vous avez rencontré ce personnage de randonneur nu et vous vouliez centrer une fiction autour de lui. C'était quoi le début de votre volonté de faire ce livre Nudisme, Daniel Foucard?
La démarche initiale, c'est moins de m'interroger sur son parcours qui le menant au nudisme, et peut-être même un peu moins sur l'engagement, paradoxalement, puisque j'ai répondu à d'autres émissions sur le fait que c'était un livre sur l'engagement. Et puis, en m'interrogeant petit à petit, je me dis, il pose aussi des questions, ce livre, sur le territoire, notamment, sur la notion de peuple, la notion de politique, le rapport qu'on a à un politique, qui est un rapport biaisé, et qui est notamment transgressif, comme je l'ai beaucoup dit. C'est plutôt un livre sur la transgression. Et à partir de là, on transgresse un petit peu tous les codes, qui sont des codes usuels, des codes auxquels moi je tiens parfois, et qui me posent problème, lorsque je les bouscule, comme ça. Et le nudisme en est un parmi les autres, par exemple l'Occident, le Groenland, voilà, notre histoire. J'ai voulu mettre les pieds là-dedans d'abord avant toute chose.
Donc un Écossais, Simon Thomas, que l'on trouve au début du livre en prison, avec une volonté forte de rester nu, alors qu'il a l'air de faire pas très très chaud dans cette prison. Et juste après, vous racontez les éléments qui l'ont amené en prison, et notamment, Nudisme se passe beaucoup au Groenland. Il arrive pour un nouveau job, comme vous dites, secrétaire de la mouvance dite populiste du Parti libéral. Et on n'en sait pas plus, au début de la fiction, ça commence comme ça.
En fait, Simon Thomas, il est à l'origine, c'est un étudiant écossais qui commence un petit peu à faire de politique avec ses amis, qui sont plutôt gauchistes. Et il découvre que ses amis gauchistes s'occupent plus des revendications écossaises, notamment liées à l'indépendance, qu'à des questions, on va dire, sociales et, on va dire, universelles. Et déçu par cet engagement, il va chercher un petit peu plus loin, lui. Il essaie, il dit, mais attendez, mais moi, je vais régler des problèmes sociaux à ma manière, un petit peu tout seul. Et déconcerté par l'attitude de ses amis, il va accepter, lui, un poste loin de son pays, dans une espèce de pays qu'on pourrait presque appeler un non-lieu. Le Groenland, il y a très peu d'habitants, hein, quelques dizaines de milliers d'habitants. Mais il va continuer sur le même credo, c'est-à-dire le credo politique. Simplement, il transfère sa radicalité à lui politique. Il a mis au point un petit peu à Dundee, qui est sa ville originaire. Il la transfère au Groenland et là, il s'y rencontre un groupe d'activistes qui est un parti... qu'on qualifie de populiste, que la presse qualifie de populiste, qui est, on pourrait presque dire, la partie autonomiste, c'est-à-dire elle est constituée moitié d'Inuit et moitié de Danois, parce que le Groenland, il faut savoir, est sous tutelle du Danemark actuellement, toujours. Il a des velléités d'indépendance. Et se pose le problème pour ce groupe d'activistes qui sont quelques centaines, de savoir comment peut-on se détacher du Danemark tout en se détachant également de la mondialisation.
J'avais une question sur le Groenland. Ça m'a surpris que ça commence au Groenland, parce que j'ai souvenir, en ayant lu vos livres précédents, je me suis replongé dedans. Peuplement débute en Sibérie. Cold se passe en Antarctique. Vos livres, enfin voilà, deux de vos livres précédents, Peuplement étant votre premier livre paru chez Aldante en 2000. Quand j'ai commencé Nudis, je me suis dit, ah, ça se passe au Groenland. Voilà, c'est pas pour rien non plus. Il y a pas une forme d'attirance, mais il y a quelque chose qui se passe avec des endroits où il fait froid.
Alors, on croit que ce sont des endroits où il fait froid. En vérité, j'ai mon deuxième livre, par exemple, ce container se passe en Australie. En fait, ce sont plutôt des endroits où j'essaie de repérer un désert, d'une certaine manière. Et le désert, ça veut dire que dans un désert, tout est à inventer. Et notamment parce que j'ai une écriture, bon, une sensibilité plutôt urbaine. Et au lieu de commenter les villes ou les endroits dans lesquels je me trouve, je préfère en inventer toute pièce. Et en ce sens, comme qui plus est, j'aime inventer et que je n'aime pas me documenter, il faut que j'invente de tout de A à Z. Et à ce moment-là, seules les régions désertiques, presque pas habitées, sont des régions pionnières pour mon écriture. Et là, je peux y placer mes fictions et mes personnages. Il y a là-dedans une recherche, moi, qui est un petit peu mon credo en littérature, qui est ce que j'appelle l'hyper-présent, la recherche de l'hyper-présent. L'hyper-présent n'est pas à entendre ici comme une espèce de plus que présent, mais ou un super-présent, mais plutôt, ça se rapproche un peu de la notion d'hypertexte, c'est-à-dire que mes territoires sur lesquels je plante mes fictions n'ont pas de passé, elles ont un avenir incertain, et le présent, je m'en occupe. C'est-à-dire que je greffe tout ce dont j'ai besoin de greffer sur ce territoire. Et à partir de là, comme c'est un fonctionne un peu comme un hypertexte, j'y mets, quand je parle d'un personnage, j'y mets sur lui des informations contextuelles, économiques, parfois psychologiques, mais rarement. Toujours est-il qu'il me faut tout inventer de A jusqu'à Z. Notamment, j'ai repéré récemment que mon écriture était 100% non létale, c'est-à-dire que tous les êtres qui l'habitent vivent. C'est-à-dire vivre avec le texte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'écris une phrase, même un arbre n'est pas coupé. Les animaux vivent, les êtres humains vivent, ils se tapent dessus, ça arrive souvent, alors surtout dans les... Quand il y a beaucoup de trafic de drogue, il y a beaucoup de bastons, il y a beaucoup de conflits, mais tout le monde reste vivant parce que le texte est lui-même, et le livre est lui-même, un hyper-présent.
Ce qui fait que votre fiction est tenue par votre écriture. J'aimerais revenir sur la question de la psychologie ou du manque de psychologie volontaire. Vous n'expliquez pas pour des raisons psychologiques les changements de motivation dans l'action de ce personnage, Simon Thomas, puisqu'il va modifier son engagement, il va modifier son activisme, il va... changer de cause, on va dire, même si le mot cause est un peu, peut-être pas forcément celui qui est le plus adéquat, et vous donnez pas d'éléments psychologiques à ces changements de qui on va dire fait tourner le livre, quoi. Le livre tient aussi par les changements d'engagement de Simon Thomas, et vous n'en donnez pas d'éléments explicatifs psychologiques.
Non, parce que c'est un, comme tous mes personnages, sont des acteurs, hein, des acteurs de l'action, et surtout jamais des juges. C'est ça finalement leur désespoir, et dans presque tous mes livres, ou leur espoir peut-être, c'est peut-être l'inverse, c'est qu'ils ne jugent jamais de rien, mais ils s'engagent à peu près dans tout. En ce sens, la psychologie, ce serait une forme de recul qui peut parfois exister, mais qui est rare. Mais c'est presque encore une manière de rejoindre mon obsession du présent. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de liens familiaux. D'ailleurs, ce Simon Thomas, on peut remarquer qu'il n'a pas de liens familiaux.
On ne sait pas d'où il vient. Enfin, à part qu'il est écossais, on ne sait pas d'où il vient.
On ne sait pas qui il aime, qui il vient. C'est un acteur complet.
Il est tout le temps dans le présent de sa narration.
Voilà.
Parce que c'est des flashbacks.
C'est tout le temps, voilà,
des flashbacks,
puisque la première scène commence en prison, elle se finit en prison, c'est finalement la même scène.
Voilà. Donc c'est une succession de flashbacks, mais dans le flashback, on est toujours dans un éternel présent.
Qui est informatif, d'abord, ça crée de l'information tout le temps. Et ça crée de la réflexion, bien entendu, puisque il pose des problèmes insolubles, ce personnage. Ses engagements posent des problèmes quasi insolubles. Je me fais une joie de ne pas les résoudre.
C'est donc la question de l'hyperprésent dans lequel on va trouver des mots d'ordre, on va trouver des leitmotivs sur des questions qui touchent à nos existences. Et ma question, c'est à quelles questions qui touchent justement nos existences vouliez-vous répondre avec Nudisme ?
Les questions qui touchent à notre existence, ce serait encore une fois une manière de chercher jusqu'où peut aller la certitude qu'on a du fait qu'on a raison. C'est peut-être encore une fois le désespoir de l'engagement et à quel point encore une fois la transgression nous ramène avant toute chose vers une forme d'individualité et non pas l'individualisme, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais véritablement se constituer comme individu, comme la dernière valeur refuge, finalement. Et notre existence, elle va être tout le temps sollicitée par des phénomènes collectifs qui sont incontournables et souhaitables, d'ailleurs. C'est bien qu'on s'intègre toujours à des phénomènes collectifs, mais se pose aujourd'hui, dans ce 21e siècle naissant, la question de la valeur de l'individu, considérée comme une valeur inaliénable et intangible. Quelque part, les réseaux sociaux, quelque part, valident ça. C'est-à-dire, on parle tout le temps de soi. Ça, c'est ses qualités, ses faiblesses, mais toujours est-il que c'est presque un acte d'extension du politique. C'est-à-dire, le politique parle l'individu. Lui, il en arrive, finalement, mon personnage, il se fâche avec tout le monde. Avec tous ceux avec qui il s'engage, il se fâche. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord au début, et puis lui, au bout d'un moment, voilà, ses copains nudistes, ils veulent faire une manifestation nudiste dans la ville... la police l'interdit au dernier moment, il est dit mais vous faites ce que vous voulez, moi je la fais quand même. Voilà, tout simplement. Et au bout d'un moment, on lui dit c'est bien d'être comme ça, mon gars, mais t'es tout seul et tu nuis finalement à notre mouvement. Il dit c'est pas mon problème que je nuise à votre mouvement, j'irai moi le faire tout seul. Et évidemment, il aboutit en prison, une suite tout à fait logique.
Parce que la question qui me semblait à laquelle vous ne répondez pas, que vous ne voulez pas répondre, je pense, et ça rejoint votre concept d'hyperprésent, ça serait la question suivante. Qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui dirige la vie de quelqu'un qui veut entrer en action, qui veut entrer en activisme ? Cette question-là ne vous intéresse pas, finalement ?
Non, si ce n'est que, effectivement, ça pose quand même des... Nudisme pose des questions. J'écris des choses, je crois qu'on n'a pas spécialement envie de lire dans Nudisme. Et notamment dans le début, dans ce qui est sur... Il y a tout un laïus sur la mondialisation, l'immigration, le fait qu'elles sont intempestives au Groenland et le fait qu'ils combattent ça. Et finalement, mon personnage, je dirais même mes personnages, parce que par le moment, il y a des dialogues, tiennent des propos qui sont embarrassants là-dessus. Et je crois même que ce livre crée une petite gêne de ce point de vue-là. Inavoué, je pense. Voilà, je sais pas. Il est évident pour moi qu'il y a. Il cherche d'abord à les motivations, elles sont pas si floues que ça, et c'est ça qui est un peu emmerdant dans ce livre.
C'est-à-dire ?
Elles mettent les pieds dans le plat au moment où il faut pas. Le fait, par exemple, que le personnage s'engage avec des écolos favorables au nucléaire, qui peut paraître une plaisanterie. Or, c'est pas une plaisanterie, c'est un
au Canada,
est...
quand il arrive, voilà, il arrive Canada, à Montréal, voilà. C'est assez rocambolesque, là.
Voilà. Oui. Donc, il s'engage avec eux. Donc, c'est un micro-mouvement qui existe. Hein.
Alors, mais qui existe vraiment. Alors, je me suis posé la question, enfin, j'ai pas fait de recherche, mais...
Oui, parce que c'est un micro-mouvement, hein, quand même. Hein,
oui, parce que c'est assez marrant. Attendez, je vais lire un extrait. Il n'hésite pas à forcer l'entrée des installations nucléaires déjà passablement assiégé par les écolos, pour entreprendre une baignade dans un bassin de rétention en prouvant son innocuité. Mmh.
Donc voilà, c'est-à-dire que la logique est très simple. Cette logique-là, c'est de dire les émissions de carbone sont nocives pour la nature. l'énergie nucléaire est un palliatif tout à fait acceptable. Ce qui est complètement délirant, puisqu'effectivement, les écologistes vont défendre spécifiquement l'inverse, peut-être à juste titre, je ne sais pas. Moi, en tout cas, le nucléaire me terrorise, mais j'en fais l'apologie dans tout ce livre. Voilà. Mais, donc, toutes ces questions sont souvent peuvent passer pour des renversements. Moi, je ne sais pas. Elles sont, je les crois fondatrices de problèmes que je me pose. Et qui sont des problèmes, oui, c'est problèmes plutôt de la transgression, c'est ça qui m'intéresse, avant toute chose.
Je voudrais continuer sur cette scène, la sortie de l'avion à Montréal, juste avant que vous écriviez « Telle est la force des groupuscules, voir sur un nouveau visage, une recrue potentielle, en tout cas un sympathisant à embrigader au plus vite ». Ça, c'est quand il descend de l'avion, et après il descend de l'avion, donc « L'industrie nucléaire ne me gêne pas ». Dit, pense en tout cas le personnage, mais aller jusqu'à se battre pour qu'elle prolifère au nom d'une réduction des gaz à effet de serre paraît idiot. C'est la première impression de Simon Thomas quand il descend de l'avion, donc plutôt une réaction, on va dire, interdite, enfin négative par rapport à ce mouvement. Et ce mouvement, lui, pense que voilà, la force des groupuscules, c'est de « Ah, il y a une recrue potentielle, quoi. Qu'est-ce qui va se jouer, là, du coup, entre ce groupuscule activiste qui va se dire « Voici peut-être une recrue excellente » et lui qui arrive, qui pose le pied à Montréal en pensant « Non, de toute façon, ils ne vont certainement pas m'intéresser.
Bah, » ce qui se passe, je pense, c'est ce principe de la solidarité des persécutions. C'est-à-dire que Simon Thomas, quand il quitte le Groenland, est persécuté par la police parce qu'il a fait des choses qu'il ne fallait pas se faire. Simplement, un ami à lui se dessable dans une piscine, c'est lui qui est accusé d'avoir fait ça, etc. Donc il fuit le Groenland. Et quand il se retrouve avec ces écologistes nucléaristes, on pourrait dire, qui est un groupe dans lequel il a été amené par une amie inuite, évidemment, il ne les comprend pas, mais même quelque part, il les trouve mais complètement absurdes. Mais en très très peu de temps, il lui faut même pas quoi, quelques jours pour se dire tiens, ils sont eux-mêmes persécutés par la police comme moi et quelque part voilà des amis avec qui je vais pouvoir agir. Finalement, il agit pour rien, il agit pour se donner l'impression qu'il est aussi lui-même dans la persécution. C'est ça que j'appelle aussi cette idée de cette passion de la transgression, c'est de croire aussi que parce qu'on se croit persécuté justement, on a des solidarités. Or les persécutés n'ont pas les mêmes buts et devraient pas forcément avoir les mêmes solidarités.
Donc là, ça sera vous dresser un profil psychologique du coup du personnage.
Ah oui,
vous en faites une raison de ce syndrome de persécution presque.
Voilà, c'est psychologique, mais il lui manque des éléments biographiques. Mais
qu'on ne connaît pas, voilà, effectivement. Là où vous arrêtez du coup, et là vous expliquez l'élément psychologique à l'oral, mais dans le livre, effectivement, ce n'est pas aussi, aussi sensible, aussi patent. Vous ne creusez pas dans sa tête pour l'expliquer, mais vous venez de donner la raison de... moi, c'était le problème que je me posais, c'est ce problème du changement de cause militante.
Oui, effectivement, il change. Mais il les teste, on dirait surtout qu'il fait des tests. Finalement, quand on arrive au bout du livre, on a cette impression-là, surtout. Moi, je ne pense pas qu'il fait des tests. Je pense qu'à chaque fois, il va chercher cette nouvelle radicalité. Et enfin, il trouve la sienne. C'est celle du nudisme radical. Et il ne parle plus des précédentes, quoi, du tout. Ça, je dis il, c'est-à-dire moi. Je ne parle plus des précédentes, celles que j'ai eues moi-même. Voilà, j'en ai pas eu beaucoup. C'est un personnage que j'ai un petit peu inventé de toutes pièces. Mais ce qui importe pour lui, c'est finalement, c'est d'être un héros, quoi. Voilà, il se retrouve dans sa prison, il est le héros du militantisme. Voilà.
Et pour revenir à nouveau à ce concept essentiel qui me semble l'hyper présent, qui est contenu dans votre écriture, c'est votre écriture qui donne cet effet d'hyper présent à l'état de texte, à l'état de fiction. Il me semble que, du coup, une des conséquences, c'est d'avoir dans vos livres précédents, il me semblait que c'était le cas aussi, toujours des professions, des métiers qui sont mis en avant. Et au fond, peut-être que votre question générale, tout au long de vos différents livres, pourrait être celle-ci, c'est comment s'occuper. Parce qu'en faisant ce qu'il fait, ce Simon Thomas, il s'occupe. Peut-être a-t-il un grand vide dans l'existence, puisqu'on ne connaît pas son passé, et que d'agir de la sorte, il se donne un but, il se donne des objectifs, et du coup, il est occupé. Et on voit tout un tas de professions dans Nudis, qui font profession d'activisme, mais il y a d'autres professions, par exemple les gardiens de prison, par exemple, les gardiens de sa prison, l'administration pénitentiaire. Je trouve qu'il y a des métiers qui sont exprimés, bon, bien entendu, dans vos autres livres aussi, c'était des métiers. Enfin, Cold, il y avait une profession quand même, quelqu'un qui expérimentait des sortes de médicaments hallucinogènes dans le Grand Nord, dans l'Antarctique. Civil, c'est un policier.
Alors ça parle de moi, hein, parce que cette question-là, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de travail, j'en ai jamais eu, et je passe ma vie à chercher à m'occuper. Alors, il se trouve que la littérature m'a donné cette opportunité de le faire, mais je revendique un peu haut et fort et à la stupéfaction d'un peu tout le monde que même je n'écris même que très peu. J'écris 15 jours par semaine. Et donc, la question cardinale, c'est et le reste de la semaine, tu fais quoi? J'ai dit, tu réfléchis sur tes livres? Non. Le reste de la semaine, je regarde la télé, je joue aux jeux vidéo, c'est tout. Voilà. C'est la seule chose que je fais. Donc, c'est un peu accablant. Je suis accablant d'inoccupation. Probablement que mes livres se construisent un petit peu, c'est un espèce de château fort qu'ils construisent contre cette invasion permanente de mon tempérament branleur, on va dire, un petit peu. Alors qui est à relativiser, bien entendu, quand on a fait 9 livres, évidemment. Mais toujours est-il que c'est une question même ancienne, hein, c'est vraiment chez moi, puisque voilà, on se demande pourquoi. Je pourrais, moi, trouver du travail tranquille, enfin, je sais pas, hein, pour enseigner au moins. J'entends d'ailleurs m'exprimer là-dessus dans mon prochain livre. Dire pourquoi cette obsession de vouloir rien faire. Évidemment, ça fait une vie précaire. Hein. Ça va avec ces inconvénients-là. Voilà. Donc ça, alors là, si on parle du psychologique, on est en plein dedans. Finalement, mes livres sont très psychologiques. Personne ne s'en aperçoit, sauf vous qui venez de le découvrir. Mais c'est évidemment un livre sur la vacuité et l'inoccupation. Et tous mes livres précédents aussi.
Je suis troublé parce que je ne m'attendais absolument pas à cette réponse-là. Je m'attendais, Daniel Foucard, à ce que vous approuviez mon propos en me disant « Mais bien entendu, c'est ça !» Et vous retournez tout, là. Heureusement que je suis assis. Ah oui.
Ouais. C'est peut-être pas si rare, d'ailleurs. Hein, mais il y a peut-être des écrivains inactifs, ça doit exister.
Ben, alors là, je suis troublé. Dans mes souvenirs, par exemple, de civil, on est dans la profession de policier. C'est un policier qui est en train de former, qui est dans un centre de formation.
Alors là, on joue à encore une autre chose, c'est que je tiens, en plus de ça, alors c'est dire là, comme c'est vraiment l'inactif qui parle décidément, à ne pas me documenter quand je commence un livre. Bon, là, encore une fois, mon deuxième livre sur Container. Qui s'appelle Container, est un livre sur le surf, par exemple. J'ai vu une émission un jour sur le surf, et à partir du moment où j'ai commencé à écrire mon livre, je me suis interdit de voir quoi que ce soit et de lire quoi que ce soit sur le surf. Pour civil, même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décrété que mon livre se passerait dans une école de police, je me suis fait, évidemment, un devoir de ne jamais prendre la moindre documentation dessus. Donc, ça signifie que, non pas que j'ai des compétences exceptionnelles pour imaginer ce qui se passe à la place de la police, ce qui se passe dans une école de police, mais simplement qu'on a tous, on bénéficie tous d'un savoir diffus, qui est un savoir informationnel qui circule sans qu'on s'en rende compte, et qui nous permet de bricoler à peu de frais des histoires tout à fait vraisemblables, comme ce qui est de former un élève policier. Je pense que ce n'est pas très compliqué à imaginer. Moi, ça ne m'a pas demandé des efforts délirants. C'est pas compliqué. Il y a par exemple des contrôles de police dedans, bon, il se trouve que voilà, quand on conduit, on a des contrôles de police. C'est pas difficile à relater, voir à peu près ce qui se passe, comment un élève est arrivé jusque-là. Donc la non-documentation, qui est l'autre obsession de mes livres, et je pense notamment une non-documentation géographique, puisque mes livres, j'ai rien pris sur l'Australie, le Groenland, très peu de documentation, si ce n'est par Internet, est aussi une obsession chez moi. Je suis persuadé qu'on doit réinventer le savoir, tout en ayant pour devoir de ne pas plonger dans un espèce d'obscurantisme, ce qui est évidemment le versant problématique de l'art, de cette fameuse manière de réinventer le savoir. C'est pas le réinitialiser et le nier, mais c'est simplement essayer de s'en occuper plus et de le prendre plus en charge. Si mes livres pouvaient véhiculer cette idée-là, ce principe-là, ce serait leur réussite principale.
On va revenir pour ma dernière question à nudisme. La fin de nudisme pourrait être une sorte de manifeste. Alors, ce n'est pas le manifeste naturiste de 1897, hein, que vous citez juste le nom du livre, quoi. À la fin du nudisme, voilà, j'y trouve ces phrases, donc issues de, voilà, prononcées par le narrateur. « J'imposerai mon innocence irréductible, mon nombril aéré toise cette chambre cadenassée. » Il est en prison. « N'ayez pas peur. » Il s'adresse à nous, il s'adresse au lecteur. « N'ayez pas peur. Osez aussi. » Inventer votre insoumission. Après ce que vous venez de nous dire au micro, Daniel Foucard, sur votre mode d'existence, il y a un propos là, inventer votre insoumission.
Oui, oui, qui me permettra de faire la passerelle avec mon prochain livre, et qui parlera, je pense, beaucoup de ça. C'est cette manière de, d'une part, d'inventer, il y a les deux mots là-dedans, il y a inventer et insoumission. Et c'est obsessionnel pour moi, ça. Je veux savoir jusqu'à quel point j'invente et jusqu'à quel point je suis insoumis. Parce que je pense que je suis capable très peu de l'un et je suis assez peu l'autre. Donc je pense que c'est vraiment la passerelle idéale, cette formule-là. Et puis inventer votre insoumission, évidemment, lui il est nu dans une prison, c'est pas compliqué la sienne. Il se met nu, bon, ça aboutit en prison, ça c'est un insoumis idéal, hein, parfait.
Qui embête d'ailleurs l'administration pénitentiaire parce qu'ils ne savent pas quoi faire.
Ils ne savent pas quoi faire.
Balader, pour aller au réfectoire.
Mais il n'est pas dangereux, surtout. Ouais. Le gros problème de cette insoumission-là et du nudisme radical, c'est qu'il n'est pas violent et pas dangereux. Il pose la question de la radicalité sans violence sur autrui. La violence n'est que le regard.
Et parce qu'il y a même cette belle phrase que j'ai repérée dans votre livre. Les révolutions qui se profilent seront habillées. Et sévèrement, elles n'en seront donc pas des révolutions. Ouais. On peut terminer là-dessus, Daniel Foucard ?
Voilà, tout à fait.
Je vous remercie beaucoup.
C'est moi.